de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir chers auditeurs, comment ça va? Je suis très heureuse de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et les chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, bonsoir. Rencontrons-nous dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. La Turquie confirme sur le fait que Sainte-Sophie ne perdra pas son identité. L'Indonésie et l'Australie invoqueront des casques bleus au Mali. La Chine construira 6 à 8 réacteurs nucléaires en 2020. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche s'assure que les produits de la pêche sont exempts de COVID-19. Les îles de Bangka Belitung continuent de s'efforcer de relancer immédiatement l'économie par l'intermédiaire du secteur touristique. Le ministère de coordination maritime aide les investisseurs chinois à recruter 5000 travailleurs locaux. Le ministère du Tourisme et de l'économie créative prépare un concert virtuel de la richesse touristique naturelle de l'Indonésie. Voici le journal complet. Le porte-parole de la présidence turque, Ibrahim Kalin, a déclaré que la réouverture de Sainte-Sophie en tant que mosquée n'éliminerait pas son identité. Cet endroit serait toujours un patrimoine historique mondial. Kalin, comme cité de Anadolu Agency, a déclaré que l'ouverture de Sainte-Sophie au culte n'empêchait pas les touristes locaux ou étrangers de visiter ce site. Ainsi, le désavantage du patrimoine mondial n'est pas remis en question. L'ouverture de Sainte-Sophie au culte est une étape du gouvernement turc. Kalin a dit que même s'il était changé en mosquée, cet endroit à Istanbul n'empêcherait pas les gens de le visiter. L'Indonésie et l'Australie sont en train de finaliser les plans d'encodéploiement des soldats de la paix pour la mission des Nations Unies au Mali, ou MINUSMA. Le commandant du Centre indonésien pour les missions de maintien de la paix, le général de division Victor H. Simatupang, lors d'une discussion en ligne, récemment a déclaré qu'au Mali, l'Indonésie et l'Australie placeront un bataillon à déploiement rapide. Victor a indiqué que les discussions suivantes seront bientôt tenues par les deux parties concernant les installations que chaque pays doit préparer pour soutenir la mise en œuvre de la mission. Outre l'Australie, l'Indonésie explore également une coopération similaire avec l'Éthiopie. Plus précisément, Victor a déclaré que l'Indonésie aidera à fournir des équipements de défense ou alutsista comme véhicules blindés danois et véhicules tactiques de Komodo pour soutenir le grand nombre de troupes appartenant à l'Éthiopie. La coopération en matière de co-déploiement et la formation avec des troupes étrangères est l'une des innovations de l'Indonésie pour accroître la capacité des personnels de maintien de la paix de l'ONU. La Chine construira 6 à 8 réacteurs nucléaires pour les centrales nucléaires de 2020 à 2025. L'Association chinoise de l'énergie nucléaire a déclaré que la capacité totale installée de la centrale nucléaire devrait atteindre 52 gigawatts à la fin de 2020. En 2035, la capacité totale installée des centrales nucléaires en Chine devrait atteindre 200 gigawatts, comme l'a rapporté The Straits Times jeudi. L'ambition de la Chine de développer des centrales nucléaires face aux obstacles. Ces obstacles sont sous forme de retard dans la construction de grands projets en raison de la technologie n'a pas encore été testée et le moratoire sur l'incident de Fukushima au Japon en 2011. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche continue de s'efforcer de garantir la qualité et la sécurité des produits de la pêche et de veiller à ce que les produits de la mer et de la pêche ne puissent pas être infectés par le virus à l'origine de l'épidémie de COVID-19. Le chef de l'agence de quarantaine de poissons, de contrôle de la qualité et de sécurité des produits de la pêche du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, Rina, dans un communiqué de presse à Jakarta vendredi, a déclaré que le public doit obtenir une explication que le poisson et les produits de la pêche sont sûrs pour la consommation et même devenir une source de nutrition communautaire pour maintenir la santé et soutenir l'immunité dans la prévention des infections de maladies, en particulier la COVID-19. L'expliquer que le ministère des Affaires maritimes et de la pêche a joué un rôle en fonction de sa compétence envers le programme du gouvernement indonésien dans la lutte contre la COVID-19 en supervisant la mise en œuvre de l'assainissement et de l'hygiène de la transformation des produits de la pêche pour garantir la sécurité des produits de consommation publique. Le gouvernement provincial des îles de Bangka Belitung continue de s'efforcer de relancer immédiatement l'économie, en particulier par l'intermédiaire du secteur du tourisme. Le gouverneur de Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Johan, a déclaré vendredi que le secteur du tourisme aurait un impact très large. Selon lui, pour que le tourisme puisse être un moteur économique, la communauté doit mettre en œuvre correctement le protocole de COVID-19. Les touristes seront à l'aise et en sécurité lors de leur visite à Bangka Belitung. Le ministère de coordination des affaires maritimes et de l'investissement apprécie la démarche des investisseurs chinois PT Virtu Dragon Nickel Industries pour recruter 5000 travailleurs locaux, dont le recrutement sera géré par le gouvernement de la région de Konawe dans le sud-est de Sulawesi. Le ministère de coordination des affaires maritimes et de l'investissement a déclaré qu'il continuerait de surveiller et d'aider à la nécessité d'un bon climat d'investissement. Le porte-parole du ministre de la coordination des maritimes et de l'investissement, Jody Mahardi, dans une déclaration écrite récemment à Jakarta, a déclaré que sa partie soutenait fermement la collaboration des trois parties entre l'entreprise, le gouvernement et les employés. On espère que toute formulation de politique et la résolution des problèmes de travail dans la région pourront être traitées mieux et plus rapidement. La direction de PT Victor Dragon Nickel Industries et le gouvernement du district de Konawe ont officiellement signé un protocole d'accord concernant le recrutement de travailleurs locaux. Dans le protocole d'accord, le gouvernement du district de Konawe mènera à bien le processus de recrutement des travailleurs locaux et les dirigera. Le ministère du Tourisme et de l'Économie créative et la communauté de Rangkai ont préparé un concert virtuel de l'événement musical et le talk show intitulé Rangkai Live épisode 4, le paradis Indonésie, pour promouvoir la richesse touristique naturelle de l'Indonésie. Le concert virtuel et le talk show sont organisés comme un moyen d'encourager les citoyens à explorer la beauté des richesses naturelles du pays qui n'est pas encore entièrement explorée, a déclaré le cofondateur de la communauté Rangkai, Redemptus Rangga, récemment. Il a reçu le soutien du ministère du Tourisme et de l'Économie créative pour inviter le public à explorer des expériences passionnantes et inattendues en appréciant la beauté du tourisme de nature du point de vue des musiciens et des invités. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Chers amis, nous continuons notre émission avec les infos de l'Indonésie. La première info est venue de Denpasar, Bali. Le gouverneur de Bali, Wayan Koster, a publié une tournée mettant en œuvre le protocole de la nouvelle normalité, qui a marqué l'ouverture des activités touristiques de l'île à la communauté locale. Lors de la libération du groupe de touristes, jeudi dernier, le gouverneur exprimait son espoir que cet effort pourrait encourager la communauté à mettre en œuvre le protocole de la nouvelle normalité dans la province de Bali de manière ordonnée et disciplinée. Leur visite aux plusieurs attractions et aux centres commerciaux de diverses régions et de villes de Bali a été dirigée par le vice-gouverneur de Bali, Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati. Ce groupe a effectué une visite entre autres au Parc Marang Bali Safari à Gianyar, Kertagosa à Klungkung, Mall Beach Walk et à la plage Kuta Badung. Bien que les activités touristiques soient ouvertes aux Balinais locaux, le gouverneur de Bali, Wayan Koster, a souligné que les activités dans les karaokés, les discothèques et d'autres lieux de divertissement restent interdits. La prochaine nouvelle vient de Banjarmasin, Kalimantan du Sud. La propagation des cas de COVID-19 dans la ville de Banjarmasin, la capitale de Kalimantan du Sud, est de plus en plus préoccupante. Même un certain nombre de villages sont désormais étiquetés zone noire. Cependant, il y a un village résilient sur Jalan Batu Benawa dont les habitants ne sont pas exposés au COVID-19, même s'ils se trouvent au milieu de la zone noire, à savoir le sous-district de Teluk Dalam, le district central de Banjarmasin. Nahwani Shafwan, chef de quartier, a déclaré mercredi que les habitants de la région avaient en effet accepté de rendre leur colonie résiliente à la propagation du COVID-19. Ils l'ont baptisé Kampung Tangguh ou village résilient de Banua, où ses citoyens appliquent des protocoles de santé stricts. L'accès au logement des résidents, composé de 4 groupes de quartier, est limité à une seule porte, de sorte que la circulation des personnes peut être surveillée facilement. Des maisons de quarantaine sont également disponibles s'il y a des résidents qui sont soupçonnés d'être exposés au COVID-19, etc. Dans ce cas, les volontaires se coordonneraient immédiatement avec les agents de santé du centre de santé communautaire de Teluk Dalam afin que le traitement puisse être effectué rapidement. La dernière info est venue de Kendari, Sulawesi du Sud-Est. 110 élèves des écoles élémentaires, des collèges et des lycées ou l'équivalent ont reçu une formation et une sensibilisation pour améliorer leur compréhension et leurs compétences dans le domaine des arts et de la culture vers une nouvelle normalité, organisée par le musée et le parc culturel du Bureau de l'éducation et de la culture de la province de Sulawesi du Sud-Est. Les activités de formation et de sensibilisation des étudiants ont été centrées dans le bâtiment des arts du parc culturel du Sud-Est de Sulawesi, tout en respectant le protocole de santé de COVID-19 et ont été menées pendant 3 jours, du 7 au 9 juillet 2020. Le chef de l'organisateur du programme, Dr. W. Shuhida, a déclaré que l'objectif de la formation était d'améliorer la compréhension et les compétences des élèves dans les arts et la culture. Chers auditeurs, c'était les infos de l'Indonésie pour ce soir. Secrétaire, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement la Journée mondiale de la population le 11 juillet. La Journée mondiale de la population était instaurée en 1989 par le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le développement suite au grand intérêt suscité par la Journée des 5 milliards célébrée le 11 juillet 1987. Son objectif est d'attirer l'attention sur l'urgence et l'importance des questions de population, outre d'inviter la communauté mondiale à participer à la résolution du problème. L'autre information est sur les troupes serbes effectuent des massacres à Srebrenica le 11 juillet 1995. Le 11 juillet 1995 restera à jamais marqué dans la mémoire de Bosniaque. Ce jour-là, les forces serbes ont systématiquement massacré les hommes et les garçons musulmans de la région de Srebrenica. En quelques jours, environ 8000 personnes ont été tuées. Le 27 février 2007, la Cour internationale de justice a fixé cet incident comme génocide. Le général Mladic est devenu plus tard un fugitif international pour avoir été reconnu coupable de génocide et d'autres crimes de guerre en Yougoslavie. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement l'Espagne a remporté la première trophée de la Coupe du Monde. Lors de la finale de la Coupe du Monde 2010, qui s'est déroulée le 11 juillet, l'Espagne a renversé les Pays-Bas en prolongation de temps. Andrés Iniesta a marqué le seul but à la 116e minute. Le but qui a finalement conduit l'Espagne au champion du monde pour la première fois, tout en réalisant leur mission d'épouser la Coupe d'Europe avec la Coupe du Monde. L'Espagne, qui a remporté la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud avec le statut de champion d'Europe en 2008,
été en mesure de remporter la victoire après la victoire en route vers la finale. Ils ont renversé des équipes de tête telles que le Portugal, l'Allemagne et l'Uruguay pour rencontrer les Pays-Bas en finale. C'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.voinews.id. La rubrique suivante, voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici donc mon Indonésie ayant pour le titre 3 pays de l'ASEAN collaborent contre l'impact de COVID-19. Trois pays de l'ASEAN réunis dans le triangle de croissance Indonésie, Malaisie, Thaïlande et IMTJT ont exprimé leur engagement à s'unir pour faire face à l'impact de la pandémie de COVID-19. Cet engagement se concrétisera sous forme de reprise économique en priorisant les protocoles de santé. Cela a été dit par le secrétaire général par intérim du ministère de la Main-d'œuvre de la République d'Indonésie, Budi Hartawan, dans une déclaration écrite mercredi. Cet engagement a été atteint lors d'une conférence sur la gestion de l'ampleur de COVID-19 au groupe de travail IMTGT sur le développement des ressources humaines, l'éducation et la coopération culturelle par vidéoconférence. Budi Hartawan a expliqué qu'une collaboration stratégique entre les pays voisins est nécessaire, en particulier dans le cadre de la coopération IMTGT qui se concentre sur la reprise des économies sous-régionales dans les régions frontalières de l'Indonésie, de la Malaisie et de la Thaïlande. Lors de la conférence, des données de la Banque asiatique de développement, BAD, ont été présentées pendant la pandémie de COVID-19. Les données montrent que la croissance économique dans la région de l'ASEAN a diminué de 4,7% en 2019 à 1% au premier trimestre 2020. D'après le rapport de l'Organisation internationale du travail, OIT, les travailleurs de la région de l'ASEAN ont connu une baisse ou une perte totale de revenus, même la perte de prestations et de protection sociale liées au travail. Le risque est souvent plus élevé pour les travailleuses migrantes. La pandémie de COVID-19 pose également de nouveaux défis dans le secteur de l'emploi, à savoir entraver les chaînes d'approvisionnement mondial et réduire la production. Cela est dû à des restrictions sociales à grande échelle et à des restrictions à la mobilité des personnes ou des travailleurs. Budi également expliqué que les communautés de la région frontalière étaient également touchées par la pandémie de COVID-19. L'économie de la communauté dépend encore fortement des interactions commerciales et de la mobilité entre les pays. Pendant ce temps, le chef des affaires étrangères du ministère de la Main-d'œuvre, Inda Anggara Putri, en tant que présidente de la conférence, a déclaré que la conférence avait produit des recommandations de collaboration potentielle pour les trois pays dans la gestion de l'impact du COVID-19 dans le secteur du travail. Cette recommandation sera adaptée à la mise en œuvre du plan directeur IMTGT 2017-2021. Par exemple, accroître la capacité de formation dans le domaine du marketing numérique et l'utilisation de la technologie à l'appui des secteurs de l'emploi et des micro, petites et moyennes entreprises ou MPME dans les zones frontalières. Renforcer également le rôle des gouvernements locaux en termes d'amélioration des compétences et d'autonomisation économique communautaire. Inda a ajouté que ces efforts stratégiques doivent être entrepris afin de maintenir la continuité du travail et du monde des affaires, afin qu'ils puissent survivre et se relancer après la pandémie pour contribuer au secteur socio-économique, en particulier dans les zones frontalières. Chers auditeurs, c'était Mon Indonésie de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
De Jakarta, voici la Voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Melayang hayalanmu. tenggelam, karismamu menghilang. Tak tahu apa yang terjadi, semua tak pasti.
Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Voici le magazine culturel. Cette fois, nous vous invitons à Banyuwangi. En plus d'être une ville touristique, Banyuwangi a également de nombreux aliments spéciaux qui ont un goût élevé et sont la fierté de Banyuwangi, entre autres la soupe de casserole qui commence maintenant à se raréfier. La soupe de casserole est un aliment qui commence à se raréfier. La nourriture typique de la tribu Osing à Banyuwangi commence à être difficile à trouver car sur quelques régions en font encore. Cet aliment de la tribu Osing contient une saveur épicée. Habituellement, les warungs sont de petites entreprises familiales sous forme de kiosques, de petites boutiques ou de simples restaurants qui vendent de la soupe de casserole ne fournissent que deux types de soupe, à savoir la soupe de casserole à la viande et la soupe de casserole à la kikil. Kikil est une partie de bœuf provenant du pied. Et si vous voulez la soupe au poulet, vous devez commander à l'avance. Pour la marinade, on utilise généralement de gros piments, du poivre de Cayenne, des tomates, des poireaux, de la pâte de crevettes, du sel et du sucre, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le voile de légumes ou plus communément appelé le fruit des étoiles. C'est ce qui fait que la soupe de casserole a un goût frais, car il y a un goût savoureux de la viande, aigre de légumes et des fruits des étoiles épicés. Payant 15 000 rupiahs à 20 000 rupiahs, vous obtiendrez une portion de la soupe de casserole, un paquet de riz, un morceau de tempeh épais, un croustillant et un gepuk, l'aliment à base de bœuf riche en épices, au goût un peu sucré et salé. Cette soupe est généralement mangée avec la sauce chili fraîche et des crackers cutanés. Actuellement, on peut acheter la soupe de casseroute dans les warungs de la ville de Banyuwangi et de la campagne sur les pentes du mont Ijen. Pour préserver cet ancien culinaire, des hôtels 5 étoiles de la région de Banyuwangi proposent également un menu de soupe de casseroute.
Semakin menyerang kalaulah ku dapat membaca pikiranmu dengan sayap pengharapanku ingin terbang jauh biar awan pun gelisah daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat thank you.
Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Voice of Indonesia.
Serviteur, auditrice, bonsoir. Voici donc l'Indonésie en couleur. Dans cette édition, je vous présente une information sur le transport public gratuit pour les touristes à Banyuwangi. Restez toujours avec nous. Serviteur, il y a beaucoup de touristes étrangers qui sont en vacances dans une longue période à Banyuwangi, Jawa Est. Banyuwangi est choisi comme un lieu touristique préféré par les touristes étrangers car il y a tout ce que vous voulez à Banyuwangi. La mer, les montagnes, de beaux paysages et de la culture. Le choix est à vous. En plus, vous trouverez aussi la facilité de l'accès. Depuis juin 2017, il y a des vols directs quotidiens de Jakarta à Banyuwangi par la compagnie aérienne NAM. Pour augmenter la visite des touristes, le gouvernement local améliore le domaine de tourisme, notamment pour le transport. Serviteur, le gouvernement de Banyuwangi propose des transports gratuits chaque week-end pour les touristes qui visitent les attractions touristiques. Trois flottes ont été préparées, à savoir deux unités de minibus d'une capacité de 21 personnes et une unité d'un wagon d'une capacité de 10 personnes. Le minibus s'opère tous les samedis et dimanches pour le service Apollo Merah, Bangsering Sumarang et une visite autour de la ville. Quant au wagon, il sert pour un voyage au cratère Ijen. Ces transports gratuits sont prévus pour offrir les meilleurs services aux touristes qui visitent à Banyuwangi, afin de rendre facile aux touristes d'atteindre les sites touristiques. En ce moment, le transport gratuit est encore dans la phase expérimentale avant d'être officiellement lancé par le ministre du Tourisme et le ministre des Transports. Serviteur, ce transport gratuit part du point de départ Brawijaya. Dans ce terminus, il existe aussi le centre d'information touristique portable. Donc, avant de voyager, les touristes peuvent obtenir des informations détaillées sur Banyuwangi. Serviteur, c'était l'Indonésie encore pour ce soir. Donc, le titre est le transport public gratuit pour les touristes à Banyuwangi. On se retrouve encore dans la prochaine édition avec des sujets aussi intéressants. Au revoir. Aku tak tahu mana yang akan
langkah yang panjang. Selalu tersipu lawan sikapmu, balik ke melulutmu. Irama kabutmu,
kabutmu
di tabir megah-megahmu.
Continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. On se rencontre avec moi, Tiwi, dans le magazine musical. Cette édition vous présente les chanteurs keroncong Bram Titali, ou mieux connu sous le nom de Bram Aceh, avec la chanson dont le titre est Rindu Malam. Son talent de chanter des chansons de keroncong est extraordinaire. On l'a donc surnommé le crocodile de keroncong et Monsieur Keroncong d'Indonésie. La chanson originale de keroncong créée par Sukamto raconte deux désirs qui viennent quand tombe la nuit. Lorsqu'il dormait et que la lune brillait, le désir est présent. Puis les yeux s'ouvrent et le cœur se bat. La musique d'accompagnement semblait solennelle, donnant la sérénité. Bon, chers auditeurs, voici Bram Aceh avec la chanson de keroncong intitulée Rindu Malam ou en français Le désir dans la nuit. Bonne écoute!
Sedang tidurku lagi nyenyak. Thank you. lagi nyenyak. Waktu tengah malam, bulan sedang mengembang, bintang barat hampir
of Indonesia.
Tanah airku yang suatu pemandangan tanah airku Indonesia terluka diri. Sungai-sungai mengalir, melalui hutan yang menghijau menuju ke laut. Setiap pagi berangkat sanginya mendung, indah tanah airku Indonesia raya, pujaan bangsa. Tanah airku yang dengan pemandangan
Voice of Indonesia.
Dikala cahaya senja
kemerah-merahan tertiup angin basah merayu ke sumar.
Voilà l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. À bientôt.